L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Amen. Amen. Dieu est bon et on veut se positionner dans la foi ce matin pour recevoir ce que Dieu en réserve pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Vous savez, on a tellement un grand privilège aujourd'hui d'avoir sa parole. Et souvent, on est là puis on prend ça pour acquis. C'est comme si, ben oui, j'ai la Bible. Mais on doit vraiment s'arrêter et être reconnaissant et remercier le Seigneur pour sa parole qu'on a. Amen. Êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? Vous avez la parole de Dieu. On peut être reconnaissant. Moi, je trouve que c'est merveilleux de prendre toutes les opportunités possibles pour dire merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu pour cette Bible que j'ai. Que mon père m'a donnée quand j'avais 12 ans. Que je l'ai encore en plus. Hier, c'était Félicité, elle me posait la question. Elle dit, papa, ça fait combien d'années que tu as cette Bible-là? J'ai dit, depuis l'âge de 12 ans. Et j'ai eu une entente avec Dieu. J'ai donné plusieurs Bibles dans ma vie. Mais j'ai dit, Seigneur, celle-là, je veux la garder. Est-ce que je peux donner les autres Bibles, mais pas celle-là? Dieu n'a pas rien répondu, mais j'ai mon entente avec Dieu. On verra si Dieu va le respecter. Mais c'est la Bible que j'ai depuis longtemps. Peu importe la Bible que vous avez au moins une Bible ce matin. On peut dire, merci Seigneur pour ça. Dans la parole de Dieu, on a la vérité. Amen. Croyez-vous ça ce matin? On a la vérité dans la parole de Dieu. Et quand des fois, on n'est pas d'accord avec Dieu, c'est jamais à Dieu de changer d'idée, c'est à nous. Amen. C'est toujours à nous de changer et de s'humilier devant Dieu et devant sa parole et dire, Seigneur, tu l'as dit, moi, ma responsabilité, c'est d'obéir ce que toi, tu as dit. Et je me soumets à ta parole. Amen. Gloire à Dieu, je suis d'accord avec moi-même. Amen. Il y en a d'autres qui vont dire amen des fois, ceux qui respirent et qui sont vivants. Savez-vous, à chaque fois que vous dites amen, vous êtes en train de dire « ainsi soit-il ». Et en même temps, vous êtes en train de l'attraper par vos mains de la foi. C'est ça, cette chose-là, je la prends pour moi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais prier. Père éternel, je veux te remercier, Seigneur, pour ton onction qui coule dans cette maison. Je veux te remercier, Seigneur Dieu, parce que tu es tellement bon. Merci, Seigneur Dieu, pour ton Saint-Esprit qui est ici. Merci, Seigneur Dieu, pour le revêtement de ton onction ce matin qu'on a besoin. On a désespérément besoin de toi, Seigneur. Il y a tellement de personnes, Seigneur, qui tournent en rond dans leur vie chrétienne. Il y a tellement de gens, Seigneur Dieu, qui marchent découragés. Et aujourd'hui, tu déclares sur nos vies, Seigneur, que c'est un jour de délivrance, que c'est une journée nouvelle en toi. Merci, Seigneur Dieu, pour cette vision surnaturelle que tu nous donnes. Merci pour cette vision que tu nous donnes. Merci pour la liberté que chaque enfant de Dieu dans cette place entre dans la liberté des enfants de Dieu. Oh, merci, Seigneur Dieu, que tous ceux qui sont religieux, qui sont perdus dans la religion ou qui sont simplement endormis, aujourd'hui, le vent de ton Esprit Saint vient, Seigneur, tout déranger. Oh, merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour ta présence. Merci pour ce feu en nos cœurs, dans nos cœurs, Seigneur, que ce feu va se répandre aujourd'hui. Merci pour le vent. J'ai pris au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais vous inviter à venir avec moi dans Éphésiens chapitre 5. On a vu ça la semaine passée. Et puis, je vais relire le même texte pour ouvrir. Aujourd'hui, le thème, c'est les ingrédients du réveil. Les ingrédients du réveil. Les ingrédients du réveil. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 14, il est écrit, « C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Amen. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Des fois, on est endormi dans le péché, certainement, et puis le Seigneur nous dit, « Relève-toi d'entre les morts. » Toi, tu ne fais pas partie de la compagnie des morts parce que tu es spirituellement vivant, tu es sauvé. Et qu'est-ce que tu fais, toi, avec les morts? Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Des fois, il y a des chrétiens qui sont endormis spirituellement, qui sont endormis. Mais aujourd'hui, si vous êtes endormis, tout au long, ça va être comme le réveil matin qui est là pour vous réveiller. Le réveil matin céleste est là pour vous réveiller ce matin. Gloire à Dieu. Des fois, on n'aime pas ça, se faire réveiller. Hein, le matin, quand on dort très bien et profondément, et puis là, le réveil matin est là, et ça sonne, et puis on est là, puis on dit, « Mais non, je dormais bien, ça ne me tente pas de me lever. » Et des fois, c'est dérangeant, mais imaginez si vous avez dormi pendant vos heures de travail, Mais là, vous regrettez votre sommeil, n'est-ce pas? Amen, je pense. À moins que vous souhaitez perdre votre emploi. Imaginez si vous arriviez toujours 3-4 heures en retard, puis vous dites à votre employeur, « Ben moi, je dormais ce matin, désolé, mais je faisais la grasse matinale. » Hein? Matinée. Hein? Imaginez. On ne peut pas dire ça, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Mais ce matin, ce qu'on veut vivre, on veut vivre un réveil personnel. Gloire à Dieu. On veut que le Seigneur nous réveille personnellement. Et souvent, comme je vous dis, des fois, on peut être endormi spirituellement parce qu'on marche dans le péché ou peut-être le compromis. Des fois, c'est l'incrédulité. Des fois, on est juste incrédule et puis on est à l'aise, on est confortable dans notre vie chrétienne évangélique. On est confortable. Confortable. Et Dieu veut qu'on soit inconfortable dans la mort et qu'on soit réveillé pour lui. Si vous dites, ben là, je ne suis pas dans la mort, pasteur Joël, moi, je suis juste confortable spirituellement, et moi, j'en veux pas plus que ce que je vis là. Ce que je vis, c'est suffisant pour moi. C'est suffisant, moi, je suis content comme ça, ça va bien mes affaires. Dieu, aujourd'hui, veut vous délivrer d'un esprit de mensonge. Il y a un esprit de mensonge qui vous aveugle, vous êtes séduit, frères et sœurs, si vous êtes content là où vous êtes. Vous êtes séduit par un esprit démoniaque, mais je vais vous dire. Vous êtes séduit si vous êtes content d'être là où vous êtes spirituellement. Parce que si j'ai soif de Dieu, je vais toujours en vouloir plus. Si je ne veux pas plus de Dieu, je suis un religieux et peut-être un vieux grincheux. Je suis très sérieux, même si je fais des jokes. Mais si vous êtes satisfait dans votre situation présente, vous êtes religieux. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu délivre encore les religieux. Amen. Dieu délivre encore les religieux. Satan souhaite que vous soyez là en train de dormir, rempli de la puissance de Dieu qui est disponible pour vous, mais que vous soyez comme ça et puis vous ne faites rien de ce que Dieu vous donne. Ou encore, vous avez un héritage en Dieu, vous avez la capacité de déplacer les montagnes par votre foi, vous avez la capacité de faire des ravages dans le royaume de l'ennemi, mais vous ne faites rien, donc Satan se réjouit de ça. Et puis en plus, il veut vous encourager à rester comme ça. Et dire, non, tu es correct comme ça, reste comme ça, tout est beau, tout est bien, tu ne déranges personne, continue à dormir, mon ami. Ça, c'est le diable qui veut ça. Mais si on est insatisfait et on dit, Seigneur, moi je lis la Bible, je lis le livre des Actes et je vois qu'il y avait beaucoup plus de choses qui se produisaient à l'époque et je suis insatisfait de ma vie spirituelle, j'ai besoin d'être réveillé, Seigneur Dieu, et je veux vivre ce que l'Église primitive vivait, expérimentait. C'est écrit, je veux le vivre. Mais il y a des gens qui disent, oui, mais les dons du Saint-Esprit, c'était pour les apôtres. Mais là, ça, encore une fois, vous avez été séduit par un mensonge. Venez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 1 et au verset 7. C'est important pour nous. C'est soit qu'on réalise qu'on a été séduit et on a besoin d'entrer dans la liberté et dans la vérité, ou on reste confortable dans notre religion et on est neutralisé par Satan. C'est soit qu'on reste neutralisé, on ne fait rien, on ne dérange pas le royaume de l'ennemi, mais vous perdez des récompenses, frères et sœurs. Oh, vous allez au ciel, ne craignez pas, vous allez au ciel, même si vous êtes là, vous allez à l'église, vous vivez la petite vie chrétienne évangélique qui ne dérange personne, vous allez au ciel quand même, là. Mais vous passez à côté du plan de Dieu pour votre vie. Imaginez, Dieu a un plan qui est meilleur que le plan que vous pouvez imaginer. Votre plan de confort, puis vous dites, ben moi, je suis content là-dedans. Je suis content là-dedans. Ça, c'est ce que vous croyez. Mais si vous faites simplement voir ce que Dieu voit pour votre vie, c'est différent. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 7, il est écrit, « De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il est écrit, « Il ne vous manque aucun don. » Avez-vous lu le même texte que moi? Il ne vous manque aucun don. Donc, s'il ne vous manque aucun don, il ne vous manque aucun don de l'Esprit aujourd'hui. Amen. Tous les dons spirituels, tous les dons de l'Esprit Saint qu'on retrouve dans la parole de Dieu sont pour moi. Amen. Si j'ai besoin d'exercer un certain don, selon un besoin particulier, l'Esprit de Dieu que tous les dons viennent sur moi et puis je suis équipé pour accomplir l'œuvre du ministère. Amen. Amen. Mais si je suis fermé puis je dis non, moi là je crois que c'était pour les apôtres, bien je vais passer à côté. Oui, c'était pour les apôtres, mais le Saint-Esprit n'a pas pris une retraite. Et en plus, elle dit, il ne vous manque aucun don. Aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Jésus est revenu chercher son Église, frères et sœurs? Non, Jésus n'est pas revenu. Il n'est pas revenu chercher son Église. Donc, les dons sont encore pour nous aujourd'hui. Mais il y en a qui vont dire, oui, mais on n'a plus besoin des dons du Saint-Esprit, on a la Bible maintenant. Oui, on a la Bible, mais savez-vous que la parole de Dieu est confirmée par le surnaturel? On peut confirmer la parole de Dieu par le surnaturel. Gloire à Dieu. Mais on doit être réveillé et on doit en même temps réaliser que nous sommes endormis si on ne croit pas dans ces choses-là. Parce que Dieu veut se glorifier parmi nous. Il y a un monde qui se perd. Quand on est là, on est confortable dans notre religion. On est là confortable dans notre religion. On est indifférent du sort des gens. Puis là, vous dites, ben non, c'est pas vrai. Moi, j'aime ça évangéliser. J'aime ça gagner des âmes. Mais saviez-vous, si on avait plus de puissance, les hommes viendraient ici même. Ils couraient vers nous. Des gens viendraient. J'écoutais un témoignage cette semaine où les gens attendaient. Écoutez bien ceci. Ils arrivaient à l'église à 3h15 le matin, à l'extérieur de l'église, et la réunion était à 7h le soir. Et les gens faisaient la file. Une file. Les gens étaient là à 3h du matin, pour une réunion qui commençait à 7h, mais pas à 7h le matin, à 19h le soir. Parce que ces gens-là avaient soif de Dieu. C'était des gens qui avaient soif. Donc, oui, on peut aller vers les gens. Mais vous savez, quand l'Esprit de Dieu descend dans une place, quand le ciel envahit une église, les gens viennent vers nous. Les gens courent vers nous. Il y a quelque chose qui se passe là. Ils diront jamais, ben c'est le pasteur Joel Spinks, il prêche tellement bien, je veux y aller. Non. Ça sera, pasteur Michael, il prêche tellement bien, je veux l'entendre. Non, ça ne sera pas ça. Ils vont dire, Jésus est à l'œuvre dans cette place. Il y a quelque chose de surnaturel qui se passe là. Les aveugles voient, les boiteux sautent. Il y a quelque chose qui se passe dans cette église. Et ça ne sera jamais un nom qui va être élevé. Le moment où un réveil cesse d'être un réveil, c'est le moment où on arrête de faire ce qu'on faisait pour vivre le réveil. Donc, on met de côté la consécration. Et là, on prend la gloire de Dieu et on s'approprie sa gloire. C'est là où un réveil arrête toujours. J'ai étudié les réveils et puis Dawi, un grand homme de Dieu qui a vécu le miraculeux, il s'est approprié la gloire de Dieu. Et puis le réveil a arrêté. Il a fait fausse route. On peut étudier plusieurs réveils. Et la fin des réveils, souvent, c'est les hommes ont pris la gloire qui appartenait seulement à Dieu. Et puis, ils l'ont pris pour eux-mêmes. Et puis, ils se sont enflés. Ils se sont enflés d'orgueil. Et puis là, Dieu a dit, non, moi là, je ne donnerai pas ma gloire aux hommes comme ça. Et puis, Dieu se retire. Mais nous, ce matin, moi, je crois que le Seigneur est en train de préparer cette maison pour vivre la visitation du ciel sur la terre parmi nous. Je crois que Dieu est en train de préparer les soldats dans cette armée. Dieu est en train de nous préparer. Et puis Dieu est en train de vous réveiller. Il y en a, vous avez les yeux croûtés. Il y en a certains d'entre vous, vous avez l'oreiller étampé dans le visage. Parce que ça fait tellement longtemps que vous dormez. Et il y en a qui vont dire, ben là, moi là, ce vent-là, le vent qui arrive, c'est comme ça on vient me déshabiller, puis j'ai froid, puis je m'en vais au plus vite. Certains d'entre vous, peut-être c'est comme ça, vous allez vous ressentir. Mais d'autres personnes vont dire, j'ose me faire réveiller. J'ose être inconfortable pour recevoir de Dieu, pour vivre ce que Dieu veut pour ma vie. Et Dieu, s'il voit votre cœur ouvert, il va vous rencontrer. J'ai écouté un témoignage d'un réveil, le jour où un réveil était pour éclater. J'écoutais ça, en fait, hier soir. Et puis, je savais que dans cette réunion-là, le réveil éclatait. C'est quelque chose d'historique. Et puis, pendant que le pasteur fait l'appel à l'autel en avant, dans la vidéo, on voit un petit couple qui s'en va. Ils quittent l'église. Là, je vois ça, c'est filmé. Ils quittent, ils s'en vont préparer leur dinde ou leur poutine, je ne sais pas trop. Mais ils sont là, ils quittent l'église. Puis là, je suis là, je vois ça. Puis je me dis, ils ne savent pas, là. Ils quittent l'église en ce moment pour aller préparer leur repas. Puis ils vont manquer ce réveil-là qui était pour exploser ce matin-là. Ils ne savaient pas, eux. mais sont partis à ce moment-là. J'étais comme, ah, c'est impossible, incroyable. Ils ne savaient pas, mais il n'y avait pas assez soif. Ben là, on a plus faim physiquement qu'on a faim spirituellement. Amen. On ne veut pas passer à côté de notre visitation. Le Seigneur veut nous toucher, veut nous transformer. Vous savez, dans cette maison, j'ai souvent partagé comment le Seigneur nous avait sauvés, nous avait qualifiés de saints. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Vous savez, on est des saints de l'Éternel. Et la raison pourquoi j'ai été obligé de vous prêcher ça souvent, c'est parce que dans la religion, souvent les gens sont condamnés, ne vivent pas dans leur position en Christ, sont là, sont condamnés, écrasés. Et puis, on a besoin de leur dire la vérité. On a besoin de vous dire la vérité que vous êtes purifiés en Christ, dans votre position. Amen. Je l'ai dit souvent, mais ceci dit, moi j'ai été obligé de vous en parler souvent, parce que je sais que le contexte ici, souvent les gens sont toujours dans la condamnation. Mais de l'autre côté de la médaille, on peut mettre tellement d'accent sur qui nous sommes devenus en Christ que dans notre condition humaine, on oublie tout ça. Puis on dit, ben là, moi en Christ, je suis parfait. Le pasteur le dit, on est parfait en Christ. Puis même dans ma condition humaine, bon, c'est vrai, c'est pourri. Je vis full dans le péché, admettons. Puis là, vous dites, ben là, dans ma condition, je sais, c'est imparfait, mais je vais avancer un jour. Mais ce jour-là est toujours remis à plus tard. Et Dieu, dans notre saison de préparation au réveil, Dieu est en train de nous appeler à la consécration. Et puis, je ne veux pas que vous viviez sous une condamnation, une fausse condamnation de l'ennemi. Comprenez ceci, être condamné par l'ennemi, ce n'est pas ça que Dieu veut là. Mais ce que Dieu veut, c'est que vous soyez conscient de qui vous êtes en Christ. Vous avez été purifié dans le sang, totalement purifié, vous êtes un saint de l'Éternel. Amen. Mais là, dans ma condition humaine, Dieu s'attend à que je vais avoir un amour sincère, véritable pour lui, que je vais vouloir marcher dans la sainteté avec lui. Amen. Ça va ensemble. Pour vivre le réveil, ça prend un groupe de personnes, des gens qui disent, moi là, je veux marcher sanctifié, je veux marcher consacré à Dieu. Pas pour être sous une condamnation. Non, je ne suis plus condamné. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais maintenant, j'aime Dieu tellement de toute ma force, mon cœur, ma pensée. J'aime tellement Dieu que je veux l'honorer avec ma vie. Je veux honorer Dieu avec tout ce que je suis. Amen. Donc, pour cela, on a besoin d'avoir une crainte de Dieu. J'aimerais vous inviter avec moi dans le psaume 34. Psaume 34, versets 11 à 14. Aujourd'hui, si vous sentez mal, comprenez ceci. Dieu veut votre bien. Dieu veut votre bien. Et si vous pouvez simplement croire dans la bonté de Dieu en ce moment, ne permettez pas à l'ennemi de venir vous écraser. Ne permettez pas à l'ennemi de venir vous enlever votre joie. Mais aujourd'hui, osez croire dans le Dieu de la Bible. Osez croire que Dieu veut que vous puissiez aller avec lui sur le haut de la montagne, au sommet de la montagne, pour voir ce qu'il veut faire parmi nous. Amen. Dans le psaume 34, versets 11 à 14, il est écrit, « Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Dites « la crainte de l'Éternel. » « Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel » ou « la révérence pour Dieu. » Nous avons besoin d'avoir une révérence pour Dieu. Et comme on est en train de se préparer à vivre des choses dans la présence de Dieu, on doit comprendre, lorsqu'on s'approche de Dieu, on veut avoir une révérence pour son nom. Une révérence dans cette maison pour Dieu. Amen. Ceci veut dire que ce que Dieu dit dans sa parole, moi je veux marcher en obéissance à sa parole. Je veux obéir lorsque Dieu me parle. Quand Dieu a donné des commandements dans sa parole, je veux honorer sa parole. Je veux que Jésus soit le Seigneur de ma vie. Il y a beaucoup de chrétiens ici au Québec qui ont fait de Jésus le sauveur de leur vie. Ils vont même évangéliser, parler de Jésus. Mais Jésus n'est pas Seigneur de leur vie parce qu'ils font à leur tête. Ils sont guidés par leur goût. Mais moi, un matin, j'ai le goût d'aller à l'église, un matin, je n'ai pas le goût d'y aller. Un matin, j'ai le goût de faire ci, j'ai le goût de faire ça. Dieu ne nous appelle pas à vivre selon nos goûts, mais selon la Seigneurie de Jésus-Christ. Jésus est Seigneur, ce que Jésus a dit, je vais obéir, parce qu'il est mon sauveur et mon maître. C'est ça, Seigneur. Ça veut dire que Jésus est mon maître. Je ne fais pas à ma tête, je fais ce que la tête me dit. Et Christ est la tête de l'Église. Christ est la tête, Christ est ma tête, et moi, je vais me soumettre à ce que Christ dit. Amen. Mais si ça fait longtemps que vous êtes chrétien, et ça fait longtemps que vous vivez selon votre goût, selon votre tête, c'est très difficile des fois d'arriver à une place où vous allez dire, je vais obéir Dieu. Parce que des fois, on a tellement des faux plis qu'on est là, non, il n'y a personne qui va me déranger dans ma routine, dans ma vie. Et la seule façon que vous allez arriver à un point où Christ va vraiment être le Seigneur de votre vie, c'est lorsque vous allez vous repentir véritablement. Écoutez bien ceci. Vous allez vous repentir et vous allez dire, « Seigneur, moi pendant trop longtemps, j'ai fait à ma tête. Pendant trop longtemps, j'avais mes excuses, mes raisons pourquoi je faisais à ma tête. Mais Dieu, ce matin, vous dit, mettez de côté vos excuses et repentez-vous. » Honnêtement, je peux vous le dire, ça vient du trône de Dieu en ce moment. Ce que je suis en train de vous dire, on est en train de vivre dans les temps de la fin, frères et sœurs, et vous allez vous rappeler de ce jour-là. Aujourd'hui, c'est important qu'on se rappelle et qu'on comprenne ceci. Quand Dieu parle, notre travail, c'est d'obéir. Et si on a marché trop longtemps dans la désobéissance, on s'est excusé, on a donné nos raisons pourquoi on n'obéissait pas à Dieu. Pendant longtemps, on a fait nos excuses. Ça va être impossible de commencer à marcher avec Dieu et dire, OK, aujourd'hui, je prends une décision. OK, là, je vais faire des changements dans ma vie. Ça va être impossible pour vous. Je peux vous dire, à moins qu'il y ait vraiment une repentance. Et vous allez dire, Seigneur, pardonne-moi parce que pendant 25 ans, j'ai fait à ma tête. Pendant 25 ans, je me suis excusé dans telle ou telle chose. Je me suis excusé moi-même. Je te demande pardon, on a besoin de vivre une repentance. Oui, les chrétiens ont besoin de vivre une repentance. Où le chrétien se repent. Parce que si on s'excuse, on dit, ben OK, j'ai mal agi, là, 25 ans, mais là, je veux bien agir. C'est pas assez de vouloir juste bien agir. Il faut se repentir pour le passé. Parce que vous ne vivrez jamais votre percée, vous n'avancerez jamais. Parce que votre passé va revenir et va vous tenter encore une fois et dire, ben tu vois, là, un an, tu étais comme ça. Tu peux retomber comme ça. Ça va venir naturel pour vous. Mais le passé doit être détruit. Votre passé doit être détruit et dire, j'étais comme ça avant, mais aujourd'hui, je ne suis plus comme ça. Aujourd'hui, j'obéis mon Dieu, je suis fidèle, je marche dans ses voies. J'ai une crainte de Dieu. Si Dieu l'a dit, je vais le faire. Je ne fais pas à ma tête. Oh, je sais, je peux déranger du monde ce matin. Mais je vous aime avec l'amour de Dieu. Je vous aime avec l'amour de Dieu, mais je suis estomaqué des fois en voyant la vie des chrétiens. Estomaqué, en voyant la vie des chrétiens. Je ne comprends rien. Je ne comprends pas. Moi, là, quand j'étais petit, là, j'avais tellement peur. J'ai été enseigné peut-être avec des choses que je ne dirais pas, mais je voulais tellement marcher pour honorer Dieu dans ma vie. Je ne pouvais pas même embarquer dans une auto si mon cœur n'était pas droit devant Dieu. Ben, je me disais, mais si j'ai un accident d'auto, tu sais, il y a des gens, des fois, moi, je me suis fait tenter quand j'étais jeune. Il y avait un jeune chrétien qui m'avait invité pour aller voir les danseuses. Il dit, ben, viens avec nous. Tu vas venir avec nous, tu vas avoir un témoignage par la suite, tu vas pouvoir dire comment Dieu t'a délivré des danseuses. Un chrétien évangélique pentecôtiste vient avec nous. Puis il dit, ben nous, c'est notre façon de briller. On peut briller. J'ai dit, oui, je suis sûr que tu donnes des traités dans la petite culotte de la danseuse. Je suis sûr que tu fais ça. Ça, c'est ça venait du royaume des ténèbres. M'ouvrir une porte. Non. Non, au nom de Jésus, j'irai pas. J'ai pas besoin d'avoir ce témoignage-là. Mais je me disais, même à l'époque, adolescent, si j'allais là et la trompette sonnait, est-ce que je penserais de monter? Là, je n'entre pas dans une discussion, mais ce que je vais vous dire. La Bible me dit ceci, Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Ma sécurité, c'est d'être en Christ. Je suis en Christ. Je suis en Christ et je reste sanctifié. Mes brebis me suivent et ne périront jamais. Mais remarquez, mes brebis me suivent. Elles me suivent. Elles suivent Dieu. Elles ne suivent pas Satan. Il y a beaucoup de mensonges dans le corps de Christ. On tire des versets hors contexte. Oui, on est sécure dans notre position en Christ. On ne perd pas notre salut parce qu'on a tchoumé. Il y a des gens qui pensent à chaque fois qu'on fait un péché, on a besoin de renaître de nouveau chaque dimanche de notre vie. Ce n'est pas ça du tout. Quand on commet un péché, on se repent et on se relève. Amen? Mais ça ne donne pas des excuses de marcher comme le diable et de suivre le diable et avoir une sécurité. Ben là, regarde, j'ai déjà fait la prière de repentance, il n'y a pas de problème, je peux vivre comme le diable, il n'y a pas de problème. Non, il y a un problème, puis vous allez vous réveiller un petit peu plus tard. C'était même pas du tout prévu dans mes notes. Mais ce matin, on veut avoir une révérence pour Dieu. une révérence pour Dieu. Et d'avoir cette crainte de Dieu, pas une crainte malsaine, mais dans le sens, aujourd'hui, il n'y a personne qui vous a promis qu'en sortant d'ici, si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, que vous n'allez pas mourir. Peut-être que vous allez vous faire frapper par un autre, on ne le sait pas, et vous allez passer l'éternité éloigné de Dieu. Si j'étais à votre place, si je n'avais pas encore fait de Jésus-Christ le Seigneur de ma vie, je le ferais en ce moment-même. Vous pouvez dire, Seigneur, pardonne-moi, je te donne ma vie maintenant. Vous pouvez le faire maintenant même. Mais on est rendu tellement confortable dans nos églises, on n'ose pas déranger les gens parce qu'on veut avoir du monde. Bien, à eux vécu, là, moi j'en perds du monde. J'en perds du monde et j'en ai perdu du monde parce que j'approuve pas les gens qui s'en vont vers l'enfer. Je m'excuse. Puis on n'est pas dans le légalisme, mais quelqu'un qui est en train de se perdre, moi je les rencontre puis je leur dis. Parce que j'aime assez qu'on va perdre du monde. Puis on a perdu du monde, mais gloire à Dieu, il y en a qui reviennent par la suite. Parce qu'ils réalisent finalement, le pasteur Joël, il m'aimait, il n'était pas contre moi, il voulait juste me dire la vérité pour me protéger, puis c'est ça notre cœur. On veut protéger les gens. On ne vous donnera pas des mensonges, on ne vous appuiera pas dans votre chemin qui est contre Dieu, qui est sans Dieu. Donc les ingrédients du réveil, le premier ingrédient, c'est justement avoir une crainte de Dieu. Une crainte de Dieu. Vous étudiez les réveils dans l'histoire et les gens avaient une crainte de Dieu. Les gens avaient aussi, comme on l'a vu la semaine passée, avaient une soif de Dieu. Malheureusement, j'ai entendu un enseignement récemment qui disait que seulement dans des moments de crise où les gens ont peur, là, les gens se mettent à prier. Puis, quand ça va bien, les gens sont confortables, vont à l'église une fois par semaine. Et puis, les gens sont contents, tout est beau, tout est bien. Mais là, quand on entend parler d'une crise économique, on entend parler de guerre, là, les gens, tout d'un coup, se mettent à prier. Mais on peut aujourd'hui décider, on va prier dans cette maison et on va se consacrer. On peut le décider sans attendre d'avoir un cataclysme au-dessus de notre tête. Et si on peut se décider et dire, on va être une maison de prière, une maison de sanctification, une maison où on est consacré, où on met de côté des choses pour avoir du temps avec Dieu. Dieu a promis qu'il était pour répandre ses eaux vives sur nous. Il l'a promis. Il a dit qu'il était pour le faire. Il a promis qu'il était pour répandre ses eaux sur le sol altéré. Ça, c'est nous, frères et sœurs. Ceci veut dire, quand on parle les eaux, on parle de son esprit. Que Dieu va envoyer son esprit d'une façon tangible dans cette maison. Tangible. Moi, j'ai vécu des moments dans la présence de Dieu et on va le vivre ensemble, frères et sœurs. Où vous allez être surpris par la mesure d'onction qui va venir sur vous. Amen. On va le vivre ensemble. Si on veut. Donc, la première chose, c'est une crainte de Dieu. Ceci veut dire aussi, si vous êtes là, puis vous voulez vous asseoir pour écouter quelque chose à la télévision, et là, vous entendez quelque chose qui va déplaire à Dieu, vous allez comprendre que Dieu est là et vous regarde. Et vous allez fermer la télévision, vous allez changer de poste. Peu importe, je donne ça comme exemple. Vous êtes dans une situation, vous êtes avec des amis au resto, et ces amis-là commencent à parler contre un autre pasteur ou une autre église, ou juste contre quelqu'un tout court. Vous réalisez que les yeux de Dieu sont sur vous, et vous avez une crainte de Dieu, et vous allez vous empêcher de parler. Vous allez retenir votre langue pour ne pas déplaire à l'Esprit de Dieu qui est en vous. La crainte de Dieu, c'est de comprendre que Dieu est là sur chacun d'entre vous et puis son regard est sur vous en tout moment. C'est-à-dire que si je réalise, Dieu est toujours là en train de me voir. Des fois, il y a des gens qui disent, ben ça, c'est en secret. C'est ma vie secrète, ça, pasteur, personne ne le sait. Mais toutes choses secrètes vont être découvertes un jour. Il n'y a rien de secret parce que Dieu connaît toutes choses. Il n'y a rien de secret, frères et sœurs. Dieu connaît toutes choses sur vous. Et puis, il vous appelle à vivre une crainte pour son nom. Une crainte. Puis, vous savez, si vous avez été purifié, si vous marchez dans la sanctification chaque jour, puis vous dites, Seigneur, j'étais dans une conversation, admettons, j'ai entendu des choses, et j'ai rajouté, Seigneur, je vais te demander pardon, lave-moi dans ton sang. Pardon, parce que j'ai prononcé des paroles que je n'aurais pas dû prononcer. Et là, Seigneur est fidèle et juste pour vous pardonner de toute iniquité. Amen. Donc, à chaque jour, vous marchez dans la sanctification, vous marchez dans la sainteté. Puis là, vous n'avez aucune crainte parce que vous êtes pur. Amen. L'ennemi n'a rien en vous. Tout comme Jésus, Satan n'avait rien en lui. Mais vous aussi, vous pouvez être totalement pur et avoir rien à cacher, avoir une conscience totalement purifiée. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, la première chose, c'est une crainte de Dieu. Et je continue dans le texte. Psaume 34, verset 11 à 14, ou verset 12 à 15, dépendamment des versions. « Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Éloigne-toi du mal. Éloigne-toi du mal. » Amen. Gloire à Dieu. Il va y avoir aussi cet amour pour la vérité. L'amour pour la vérité de la parole de Dieu. Je peux vous donner une référence que vous pourrez lire à la maison. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9 à 12. Je répète, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9 à 12. Et je vais vous lire un texte dans 2 Timothée maintenant, chapitre 4, verset 1 à 4, concernant l'amour de la vérité. Nous sommes présentement dans une société où les gens n'aiment pas Dieu, évidemment, où les gens se détournent de Dieu et des principes de Dieu. Et même dans nos églises, les gens ne marchent plus avec Dieu en grande partie. Puis vous êtes là, peut-être vous êtes surpris, puis vous dites, ben non, ça se peut pas. Je suis en train de vous dire la vérité, frères et sœurs. Et c'est triste, mais c'est notre réalité. Dans plusieurs églises, on ne dit pas partout, gloire à Dieu. Heureusement, il y en a des églises qui aiment la Bible. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des bonnes églises, amen, qui sont encore vivantes. Gloire à Dieu. Mais de plus en plus, les gens se détournent de Dieu. De plus en plus, les gens se détournent de la parole de Dieu parce qu'on veut être à la mode. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 4. Ici, l'apôtre Paul, il parle à son fils spirituel Timothée. Il dit, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Steve Hill, cet homme-là que j'ai rencontré, qui a vécu un grand réveil de la part de Dieu, raconte comment le Seigneur lui a donné une visitation récemment. Une visitation, c'était dans la forme d'une vision. Et puis, il était là dans son salon et le Seigneur lui a donné une vision de l'état de l'Église aujourd'hui. Et ça l'a vraiment ébranlé. Et je vous partage aujourd'hui sa vision parce que cette vision-là me touche en tant que pasteur et ça vous touche aussi en tant que chrétien. Dans cette vision, il voyait une grande montagne. Et puis, lui, c'est un homme qui aime faire du ski. Et puis, il disait, sur cette montagne, il y avait beaucoup de neige, mais de la neige en surplus, beaucoup plus que nécessaire pour faire du ski. Et puis, il y avait beaucoup, beaucoup de neige. Et puis, il est là, il voyait sur cette neige-là qu'il y avait une avalanche qui s'en venait, qui arrivait. Et puis, il y avait cette belle petite cabine ou un chalet, si on veut, où les gens étaient en dedans, dans le chalet, relaxaient, vivaient peut-être leur chocolat chaud et tout ça. Ils étaient là. Et puis, dans cette vision, Dieu lui a dit, « Le chalet, c'est mon église. » Les gens sont confortables. Les gens sont là, sont en train de se faire divertir. Les gens viennent parce que c'est le fun et c'est confortable. Et puis les gens se promènent ici et là. Mais il y a cette avalanche qui arrive. Et l'avalanche, ça représentait les fausses doctrines dans le corps de Christ aujourd'hui. On a tellement prêché les bonnes choses. Et je peux vous dire, si une maison qui croit que Dieu est bon, c'est ici. Amen. On croit que Dieu est bon. On croit dans les promesses de Dieu. Absolument. Mais on ne sert pas Dieu parce que Dieu va nous guérir. On ne sert pas Dieu parce que Dieu bénit. Dieu avait promis à son peuple, vous allez vivre dans le pays où coule le lait et le miel. Parce que Dieu est comme ça. Dieu aime son peuple. Dieu aime ses enfants. Je connais le cœur de mon père. Mon père veut mon bien. Il veut me donner le pays où coule le lait et le miel. Ça, c'est le cœur de Dieu. Mais je ne sers pas Dieu pour le miel ou pour le lait. Mais il y a des gens qui servent Dieu pour les mauvaises raisons. Et puis, Ils ont des oreilles qui veulent entendre, des oreilles avares, où ils veulent les choses de Dieu, ils veulent les promesses de Dieu sans avoir la présence de Dieu. Ils veulent les bénéfices de Dieu, mais ils ne veulent pas Dieu lui-même. Et puis dans cette vision, il a vu cette avalanche qui tombait sur l'Église. Et puis Dieu lui a montré par ça qu'il devait dénoncer ces doctrines-là, qu'il devait secouer l'Église et dire, « Faites attention, cette avalanche peut venir vous submerger, vous enterrer. » Aujourd'hui, Dieu nous appelle à être réveillés spirituellement et dire, « Pourquoi je suis là? Pourquoi est-ce que j'aime Dieu? Pourquoi est-ce que je suis ici aujourd'hui? Est-ce que c'est pour les bénéfices? Est-ce que c'est pour les promesses de Dieu qui sont oui et amen, les promesses de Dieu? Ou c'est parce que je veux la présence de Dieu? Est-ce que je voudrais la présence de Dieu s'il n'y avait aucune promesse? Si les promesses de Dieu n'étaient pas oui et amen aujourd'hui, si c'était comme plusieurs croyants disent, bien c'est juste pour au ciel. Si c'était juste pour au ciel, est-ce que je voudrais servir Dieu quand même? Est-ce que j'aime Dieu quand même? Même si je ne recevais aucune guérison divine, même si je ne recevais aucun bénéfice aujourd'hui, si c'était juste pour savoir que je suis sauvé et en route vers le ciel, est-ce que j'aimerais Dieu quand même? Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de choisir. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a un cœur de père. Dieu a un cœur de père, puis il veut prendre soin de nous, et les promesses de Dieu sont oui et amen, mais Dieu se cherche un peuple qui l'aime lui premièrement. Imaginez si vous voulez offrir un cadeau à votre enfant, et la seule chose importante, c'est ce cadeau-là. Et puis vous offrez un cadeau à votre enfant, et l'enfant a les yeux sur le cadeau, et puis prend le temps, s'investit et puis est super content avec le cadeau, oubliant qui a donné le cadeau. Et dans nos églises, souvent, c'est ça qui se produit aussi. C'est quand on parle juste la promesse ou on veut juste la promesse sans voir la présence de Dieu. Mais dans la présence de Dieu, il y a la joie, une joie certaine et parfaite. Et on peut vivre tout ça. Dans la présence de Dieu, on n'a pas à choisir. Mais on doit discerner notre cœur aujourd'hui. On doit discerner, est-ce que j'aime Dieu de tout mon être aujourd'hui? Donc, l'amour de la vérité. Amen. Est-ce que, quand je parle de la vérité, ça peut remettre aussi en question votre tradition. Votre tradition. Comme j'ai dit au tout début, Dieu nous dit qu'il nous donne les dons de l'Esprit pour le représenter sur la terre et pour œuvrer pour lui sur la terre en ce moment. Mais si vous dites, ben moi, j'aime pas ça, je suis inconfortable, et je suis même conscient de ça, puis je suis correct avec ça. Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 14, 1, l'apôtre Paul a dit, cherchez la charité, aspirez aux dons spirituels. Avez-vous remarqué? Si ça vous tente, OK, allez-y. Est-ce que c'est ça que ça dit? C'est-à-dire, aspirer aux dons spirituels. Aspirer, c'est un commandement, ça. Aspirer. Aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Puis ça, si vous voulez comprendre des choses sur les dons spirituels, j'ai l'école de l'esprit sur le site web de l'Église. Dans le même chapitre, au verset 12, « De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. » Donc, ici, le cœur, ce n'est pas pour se péter les bretelles, c'est pour l'édification, pour que l'Église puisse grandir et être bâtie. Amen. Et dans chapitre 14, encore une fois, mais verset 39, « Ainsi donc, frères, aspirez aux dons de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. » Ici, on trouve un verset qui est barré dans plusieurs églises. Où on a effacé, on a mis du liquid paper dessus. Mais ces pasteurs-là qui font ça vont devoir rendre compte à Dieu un jour. Donc, l'obéissance, crainte pour Dieu, l'amour de la vérité. Mais quand on dit l'amour de la vérité, là, il y a des gens qui veulent juste avoir la vérité dans la tête. Ils ne veulent pas vivre la vérité. La vérité, là, quand on aime la vérité, ça veut dire qu'on est prêt à marcher dans la vérité, pas juste lire la vérité. Voyez-vous une différence entre lire la vérité et de la vivre? Il y a une différence entre lire la vérité et de la vivre. Je peux lire la Bible, c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. Mais aujourd'hui, si vous êtes pris dans la tradition, dans votre religion, dans votre confort, vous connaîtrez la vérité, et son nom est Jésus. Si vous ouvrez la porte de votre cœur au Seigneur Jésus et vous dites, « Seigneur, je ne t'ai pas connu encore. J'ai connu des choses à propos de toi. Je connais beaucoup de passages de ta vérité, mais je ne te connais pas encore. Parce que pour moi, tu étais dans ma tête, mais je n'ai pas été prêt à t'ouvrir vraiment la porte de mon cœur pour vivre la vérité, vivre cette vérité avec toi. » Peut-être qu'il y a des gens comme ça aujourd'hui. Mais Dieu est disponible, rempli d'amour. Il veut se révéler à vous. Je me souviens, je pense que c'est en 2007, j'étais dans une réunion, Siege qu'on appelle, et puis j'étais dans une réunion et l'Esprit de Dieu est venu sur moi et m'a dit, va-t'en au micro, je faisais partie du leadership, donc je pouvais y aller. Et puis l'Esprit de Dieu m'a dit, tu vas déclarer cette chose dans la réunion. Et puis, j'avoue, j'étais fatigué. Physiquement, ça ne me tentait pas. Parce que des fois, vous êtes comme ça, vous. Ça ne vous tente pas. J'étais pas comme, « Ah, Seigneur, donne-moi une parole. Seigneur, je veux aussi. » J'étais pas du tout comme ça. J'étais comme un petit peu fatigué. C'était la fin de la fin de semaine. On avait prêché. Il y avait eu beaucoup de réunions. J'étais épuisé. Le Seigneur me dit, « L'Esprit de Dieu vient. Tu vas donner cette parole. » J'étais comme, « Est-ce que je vais pas. » J'étais comme, « OK. » Je suis allé. Et puis, je me suis mis derrière le micro. Et l'Esprit de Dieu, là, c'était surnaturel. J'ai dit deux, trois mots, mais l'Esprit de Dieu a fait en sorte que j'ai tombé à terre pendant peut-être deux heures, pendant la réunion. Et les gens venaient sur l'estrade pour recevoir de Dieu. Pourquoi? Parce que là, c'était un amour de la vérité, cet amour pour la vérité que j'ai vécu. Et là, ça déborde sur d'autres personnes. Comprenez-vous? Si vous vivez la vérité, ça, il va y avoir un impact sur d'autres vies. Le moment qu'on dit, ben là, j'avais vraiment une inspiration, j'ai reçu cette belle parole, là, vous commencez à vous péter les bretelles. Oubliez ça, c'est fini. Mais si vous êtes prêt, même quand ça ne vous tente pas, ce n'est pas à propos de vous, c'est pour le royaume de Dieu, puis vous le faites, Dieu va se servir de vous. Moi, là, ma prière dans cette maison, là, c'est qu'on soit tellement en amour avec Jésus, qu'on soit tellement dans cette crainte de Dieu, un amour pour la vérité, que les gens ne parlent jamais de nous, que les gens parlent de Jésus, que ce ne soit vraiment pas nous, là, parce que le moment que ça devient nous autres, là, c'est là où c'est fini. Ça, on peut comprendre, ce n'est pas à propos de nous. Nous, on est juste là pour faciliter le royaume de Dieu. On est juste là pour faciliter ce que Dieu veut faire à travers nous. On est là pour faciliter, pour donner notre bouche au Seigneur, pour prier les choses qui sont sur son cœur, pour déclarer les choses que Dieu nous révèle par son esprit, pour que les choses dans le monde invisible deviennent visibles, qu'on déclare ces choses-là de notre bouche et qu'on soit des véhicules pour l'Esprit de Dieu. Et là, si on est là pour déclarer les hauts faits de Dieu, la gloire de Dieu vient, on va avoir été disponible puis on va avoir facilité ce que Dieu a voulu. Là, si on reste comme ça, jusqu'au second retour, à l'enlèvement de l'Église. Si on reste comme ça, ça va être un réveil qui va toujours durer, qui n'arrêtera jamais. Parce qu'on le sait, pourquoi que les réveils arrêtent? Parce que les gens arrêtent de prier. Les gens deviennent confortables. Les gens disent, ben là, on est dans le réveil, ouh, c'est merveilleux, telle personne guérit, tout le monde arrive ici, sont guéris, sont rencontrés, ça va bien, c'est merveilleux. Et là, les gens rentrent dans le party, c'est correct de se réjouir. Mais les gens cessent de prier. Les gens cessent d'être consacrés à Dieu. Le péché entre, l'orgueil entre, et puis là, le réveil disparaît. Parce qu'on est devenu confortable. Mais si on le sait déjà, les ingrédients, nous, on doit être humbles. Humiliez-vous devant le Seigneur. Si on reste humble avant, pendant, jusqu'au second retour, ou l'enlèvement de l'Église plutôt, on va vivre le plus grand réveil possible. Pour le Québec. Pour la francophonie. Mais ça prend une décision, encore une fois. Ça prend un peuple qui va décider, on va prier. Un peuple qui va décider, je vais me consacrer. Je vais lire, vous êtes encore là pour 5 minutes? 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 à 6. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Mais revêtez-vous d'humilité. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Vous savez pourquoi on peut s'humilier? C'est parce qu'on n'a rien à voir avec les miracles, avec le surnaturel de Dieu. C'est impossible pour nous de vivre ces choses-là. C'est impossible pour nous de fabriquer ces choses-là. Dieu est la source, donc c'est facile pour nous de dire, Seigneur, on s'humilie devant toi. On s'humilie devant toi. Ce n'est pas à cause de nous. J'écoutais un témoignage d'un autre réveil, puis Dieu bénissait. Et là, j'ai su que ce réveil-là avait cessé. Et j'écoutais le documentaire sur le réveil pour voir où les portes avaient été ouvertes pour que le réveil cesse. Et puis, il y avait les gens dans l'équipe de la louange qui parlaient du pasteur. Et puis, ils chantaient même des cantiques de l'Église, des chants de l'Église, puis ils changeaient le nom de Jésus pour le nom du pasteur en joke. En joke. Puis là, j'étais là, puis je voyais ça, je me suis dit, « Ah! » C'est de prendre la gloire qui vient à Dieu, puis on pense, c'est innocent, c'est une joke. On ne fait pas des jokes avec les choses de Dieu. Et ça a ouvert une porte, puis le réveil a cessé. On veut vraiment rester humble. Si vous connaissez Heidi Baker, c'est une femme qui a un grand ministère de guérison. Je pense qu'il y a 80 personnes qui ont été ressuscitées d'entre les morts. C'est une femme, si on peut la voir, une femme très, très simple, mais qui marche dans l'humilité. L'humilité la décrit parfaitement. Si on peut tous vouloir être humbles comme Jésus, dans Philippiens 2, 5 à 10, ça nous parle, ayez en vous les mêmes sentiments qui est en Christ. Dieu était simple, humble. Je vous invite avec moi dans la parole. Dans Ésaïe 55, versets 6 à 7. Et après, je vais terminer. Pour ce matin. Ésaïe 55, versets 6 à 7. Il est écrit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » C'est encore jour de grâce aujourd'hui. Même si le jugement arrivera, certainement, aujourd'hui, c'est encore jour de grâce. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ou malfaisant ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Mais ça nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Dans Marc 14, 38, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. C'est Jésus qui disait ça. Pourquoi? Parce que la chair est faible. Si on prie, la chair va dire non. Peut-être certains d'entre vous, cette semaine, vous avez jeûné. J'ai appelé toute l'Église à un jeûne. Peu importe la façon, j'ai partagé ça la semaine passée. Peut-être certains d'entre vous, vous avez réalisé que votre chair était plus forte que vous avez imaginé. Peut-être vous avez réalisé, hey, j'ai sauté une journée de nourriture seulement, puis ma chair criait, voulant manger. Peut-être vous avez réalisé à quel point votre chair a dominé longtemps sur vous. Si c'est ça que vous avez appris cette semaine, gloire à Dieu. Parce que là, vous réalisez les choses sur vous-même. Vous réalisez que vous avez besoin de vous consacrer davantage, amen. 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 Puis comme on se consacre, puis on est vraiment devant le Seigneur dans la prière, puis on lui donne notre cœur, notre amour, on lui dit, Seigneur, je ne veux pas juste les promesses, je veux ta présence. Je veux ta présence. Le Seigneur connaît vos cœurs, puis le Seigneur vous voit, puis voit votre désir pour lui. Et cette semaine, ce qu'on va faire dans nos groupes vie, on va annuler nos groupes vie comme tels, mais on n'annulera pas les rencontres de groupe vie. On va changer les groupes vie pour faire juste la prière. Juste la prière dans les groupes vie. À EVQ, on a besoin de prier davantage. Et prochainement, je vais vous donner d'autres informations où on va annuler complètement les groupes vie, pas indéfiniment, mais on veut avoir des réunions de prière. Et vous recevrez peut-être un courriel, peut-être cette semaine, peut-être la semaine prochaine, où on va venir ensemble juste pour prier et chercher la face de Dieu. On a besoin de vivre quelque chose ensemble. Mais cette semaine, pour cette semaine, on va changer l'ordre de nos groupes vie. Donc, les leaders des groupes vie, vous allez ouvrir vos maisons, puis ça va juste être un temps de prière. Amen. Est-ce qu'on est capable de prier ensemble? Si vous dites, je ne suis pas encore dans un groupe vie, bien, venez nous voir à la table d'accueil, puis on va vous trouver une maison. Dites-nous là où vous voulez, de quelle ville vous êtes, et puis on va essayer de vous organiser ça. Ce qu'on veut vivre dans cette maison, oui, on veut vivre la bonté de Dieu, on veut vivre les promesses de Dieu, on veut vivre toutes les choses, mais Jésus a besoin d'être exalté dans cette maison. On a besoin de chercher sa présence. Parce que dans sa présence, là, on a tout, là. Aujourd'hui, pendant que j'ai partagé mon cœur et le cœur de Dieu, certains d'entre vous, vous avez réalisé des choses dans votre propre vie, où vous avez été chrétien pendant longtemps, mais où vous avez été le leader, le Seigneur de votre propre vie. Et vous savez, quand j'ai dit vous avez besoin de repentance, vous savez, ça vous concernait parce que dans votre cœur, vous l'avez ressenti, que Dieu vous disait, tu as besoin de te repentir. Dans Ésaïe 43, verset 25, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Amen. C'est dit, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu. Merci pour cette parole, Seigneur. Merci que tu ne te souviens plus de nos péchés. Tu ne te souviens plus, Seigneur. Tu as pris ces péchés, tu les as mis dans la mer de l'oubli. Et aujourd'hui, comme on marche avec toi, nous décidons, Seigneur, nous marchons constant avec toi. En cherchant ta face, en cherchant ta face, Seigneur, en cherchant ta face, Seigneur, en cherchant ta face dans cette maison. Nous sommes une maison de prière. Nous déclarons que dans cette église à EVQ, nous sommes une maison de prière. Nous sommes une maison de prière. Nous cherchons ta face, Seigneur. Nous cherchons ta face, Seigneur Dieu. Nous cherchons ta face. Nous voulons voir ta face. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir, Seigneur Dieu, ce que tu veux dans cette maison, ta présence tangible. Jésus est bienvenu ici. Jésus est le bienvenu dans cette maison. Jésus est le bienvenu à nous visiter et de faire une marque au Québec, de faire sa marque ici. Jésus est bienvenu. Jésus est le bienvenu. Oh, viens faire ta marque premièrement sur nous. Ta marque, Seigneur Dieu, premièrement sur nous, dans nos cœurs. Premièrement, Seigneur Dieu, ça commence avec nous individuellement. Fais ta marque sur moi, Seigneur. Fais ta marque sur chaque personne ici en avant. Que ton onction coule, Seigneur Dieu, maintenant sur eux. Que ton onction, Seigneur Dieu, coule sur eux. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu viens les revêtir de ton onction ce matin. Tu viens les revêtir, Seigneur Dieu, ce matin de ton onction. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Je vais terminer la réunion officiellement pour nos gens sur Internet. Et puis, je vais descendre. S'il y en a ici ce matin, vous voulez que je prie pour vous, peut-être pasteur Michael, mon père, les pasteurs de l'équipe de la louange, de l'équipe pastorale, je veux dire, ceux qui veulent venir prier avec moi, on va prier pour vous. Que le Seigneur vous rencontre, que le Seigneur vous rencontre et vous touche. Que son onction vienne sur vous ce matin. Que vous viviez une touche nouvelle de sa part. Tous ceux qui veulent vivre un temps de prière comme ça, je vais prier avec vous. Ceux qui veulent quitter, vous pouvez quitter. Mais sinon, si vous restez, on va prier pour vous. Et je vais prier, je vais demander à l'équipe pastorale d'être là aussi avec moi pour m'accompagner. Amen. Je déclare sur chaque tête le shalom, rien de manquant, de brisé au nom de Jésus. Alléluia.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.